journal. Bonjour Laurence Thomas.
Bonjour à tous.
À la une ce matin, cette annonce qui planait depuis quelques semaines, le Royaume-Uni va imposer une quatorzaine aux voyageurs arrivant de l'étranger. Et conséquence, dans le sens inverse, Royaume-Uni-France, le gouvernement se voit donc obligé de prendre une mesure identique. Les autres titres, Laurence ?
Ni la chloroquine, ni son dérivé, l'hydroxychloroquine, ne se montrent efficaces contre le Covid-19. Chez les malades fraîchement diagnostiqués, c'est le résultat d'une vaste étude parue dans The Lancet. Le SOS lancé par les ostréiculteurs, la France est le premier producteur d'huîtres en Europe avec 90% de la production. À la fin de ce journal, les humoristes américains qui s'en donnent à cœur joie quand il s'agit de rire de Donald Trump, une très grande source d'inspiration, il est vrai, en cette période de pandémie.
Un mot sur l'invité, à partir de 8h20 ce matin, ce sera Sacha Houlier, le député La République En Marche de la Vienne. Vos questions ce matin sur la gouvernance Macron, vos questions à Sacha Houlier, c'est maintenant 01 45 24 7000.
France Inter. Après l'Espagne, le Royaume-Uni, à partir du 8 juin, les voyageurs en provenance du Royaume-Uni et quelle que soit leur nationalité seront invités à rester en quatorzaine en France. Une mesure de réciprocité que va imposer l'Hexagone à regret, précise le Quai d'Orsay, mais c'est la conséquence de la mesure décidée par nos voisins anglais qui ont décidé de contenir ainsi la transmission de la maladie à Alain Gastal.
Faute d'organisation du déconfinement à l'échelle de l'Europe, la France a décidé d'adopter des mesures de réciprocité à l'égard des pays qui ont déjà, de façon unilatérale, décidé de mesures de quarantaine. Les décrets d'application qui permettent d'imposer une quarantaine à l'initiative de l'exécutif, mais sous le contrôle d'un juge, vont entrer en vigueur dès aujourd'hui. Ce sera le cas donc notamment à l'égard de l'Espagne, puisque tous les voyageurs en provenance par voie aérienne de l'Espagne devront donc s'isoler pendant 14 jours à leur arrivée en France. L'Espagne a adopté la même mesure depuis le 15 mai et puis même chose à partir du 8 juin pour les voyageurs, quelle que soit leur nationalité, en provenance de Grande-Bretagne, puisque la Grande-Bretagne a annoncé hier soir une mesure identique. Il y aura toutefois des exceptions, pas de quarantaine donc pour les personnes en transit, les membres d'équipage, des sociétés de transport, les professionnels de santé concernés par la lutte contre le Covid-19, les diplomates, membres d'organisations internationale, personnel de sécurité en mission et enfin les travailleurs frontaliers.
Alain Gastal, aux Antilles, le déconfinement se poursuit. La quatorzaine imposée aux voyageurs entre la Guadeloupe et la Martinique sera levée à partir de lundi et Air Antilles reprendra progressivement ses vols le jour même. C'est ce qu'a fait savoir la compagnie. Un autre signe rassurant, les cérémonies religieuses vont pouvoir reprendre dès aujourd'hui selon des modalités fixées par un décret publié au JO. Désinfection des mains, masque obligatoire, filtrage à l'entrée et si ces règles ne sont pas respectées, précise le ministère de l'Intérieur, eh bien le préfet de département pourra ordonner la fermeture d'un lieu de culte. La fin du Ramadan, c'est demain dimanche. Décision du Conseil français du culte musulman qui a annoncé donc la date de l'Aïd. Un Ramadan particulier cette année puisque confiné, il avait commencé le 24 avril. Reste à savoir si les mosquées auront le temps de mettre en place les mesures sanitaires d'ici demain. Réanimation, décès, contamination, près de 15 jours après le déconfinement en France, les indicateurs sont plutôt positifs. Les autorités appellent à la prudence et jugent qu'il est encore trop tôt pour en tirer des conclusions, mais certains scientifiques n'hésitent plus à dire que l'épidémie est derrière nous. Premier indicateur crucial, les admissions en réanimation sont à la baisse, de même que les décès sont en baisse régulière. Diminution des passages aux urgences pour Covid-19, ce qui traduit une diminution des nouvelles contaminations. Mais bien entendu, ce qu'on mesure aujourd'hui, c'est encore les bénéfices du confinement. Le gouvernement répète qu'il faudra attendre au moins 2 semaines pour commencer à y voir plus clair.
À lire aussi cette étude parue dans la sérieuse revue scientifique de Lancet, étude qui devrait interpeller Donald Trump puisqu'il pense que si la chloroquine ne fait pas de bien, en tout cas, elle ne fait pas de mal.
Cette étude de The Lancet porte sur un nombre très important de patients traités 24 heures suivant le diagnostic, 96 000 dans 600 hôpitaux dans le monde, dont 15 000 traités avec de la chloroquine. Et la conclusion, Daniel Messager, est sans appel, ce protocole thérapeutique serait inefficace et dangereux.
Nous n'avons trouvé aucune preuve du bénéfice de l'hydroxychloroquine seule ou associée à d'autres médicaments. C'est ce qu'écrivent les auteurs de cette étude à large échelle, la première à inclure autant de patients. En fait, ce sont 96 000 malades qui y ont participé et 15 000 d'entre eux ont reçu différentes combinaisons, chloroquine seule ou associée à un antibiotique, ou bien son dérivé, hydroxychloroquine, testé de la même façon. Une fois les résultats comparés avec les autres malades qui n'en avaient pas pris, non seulement il n'y avait pas de bénéfice, 6, mais un risque de mortalité bien plus élevé, entre 16 et 23% selon les différents modes. Les chercheurs font également état d'arythmies cardiaques graves. Certaines preuves d'efficacité auparavant provenaient de petites études anecdotiques et non concluantes, soulignent les auteurs. À la suite de celles publiées dans The Lancet, ils recommandent de ne pas utiliser chloroquine et hydroxychloroquine en dehors de quelques essais cliniques très encadrés.
Daniel Messager, la politique s'est actée, donc le second tour des municipales aura lieu le 28 juin.
Actée, mais une décision réversible, a dit le Premier ministre. Si d'ici là, l'épidémie connaît un rebond. Un second tour en mode étriqué, sans meeting, ni tractage et avec masque. La campagne va donc recommencer, là où on l'avait laissé, avec une forte poussée écologiste et un parti présidentiel en mauvaise position, Élodie Forêt.
Le 15 mars, la vague était verte. À Lyon, Strasbourg ou Besançon, les candidats écolos sont en tête. À Bordeaux, Pierre Urmic talonne le dauphin d'Alain Juppé et rêve de faire basculer la ville. Quelques déceptions quand même, à Paris où Anne Hidalgo capte l'électorat écologiste, ou à Rouen où le PS domine. Des socialistes qui respirent, ils devraient conserver leur bastion, Lille, Nantes ou Rennes. Côté LR, inquiétude à Marseille où se joue la succession de Jean-Claude Gaudin, avec un duel gauche-droite qui se prépare. Le parti de Marine Le Pen dresse, lui, un bilan mitigé avec des places fortes conservées, mais une présence limitée au second tour, 122 communes seulement. Quant aux marcheurs, les résultats cinglants ne laissent espérer aucune conquête notable. Difficulté aussi des maires sortants soutenus par LREM, comme à Toulouse où Jean-Luc Moudenc est menacé par la gauche qui, si elle s'unit, a des chances de l'emporter.
Élodie Forêt, l'appel au secours des ostréiculteurs, 28 députés du littoral français se mobilisent pour eux. Depuis le début de la crise du Covid-19, les producteurs d'huîtres ont vu en moyenne leur chiffre d'affaires baisser de 80%. Les députés ont signé et envoyé il y a deux jours un courrier au Premier ministre. Et parmi ces signataires, Sophie Panonacle, députée de la 8e circonscription de Gironde, celle du bassin d'Arcachon. Elle demande de toute urgence des aides pour les 300 ostréiculteurs girondins.
Les ostréiculteurs ont dû, pendant cette période de confinement, poursuivre leur activité. Les huîtres restent vivantes et donc leurs salariés étaient présents. Ils n'ont pas, pour en tout cas une grande partie d'entre eux, bénéficié du chômage partiel puisque les salariés étaient au boulot. Ils n'arrivent pas à vendre leurs huîtres parce que la demande n'est pas là. Donc, pour leur apporter soutien, ils demandent simplement à bénéficier de l'exonération des cotisations sociales pour une période de 6 mois. Donc, on partira de mars 2020. Et en plus donc des exonérations des loyers et des redevances d'occupation du domaine public. Ceci calqué sur le modèle des acteurs du tourisme, puisqu'on peut considérer que les ostréiculteurs, pour un grand nombre ayant également des cabanes de dégustation, participent au tourisme local. Donc je pense que cette exonération et cette aide apportée par l'État serait bienvenue et devient urgente.
Sophie Panonacle, députée LREM de Gironde, au micro de Dylan Jaffrelot de France Bleu Gironde. L'assureur AXA, condamné par le tribunal de commerce de Paris, a indemnisé un restaurateur parisien qui gère 4 établissements, une indemnité qui s'élève à hauteur de 2 mois de chiffre d'affaires en raison du confinement. C'est la première décision en ce sens. AXA va faire appel. Et puis, le loueur de voitures Hertz placé sous le régime américain des faillites, une procédure qui concerne ses opérations aux États-Unis et au Canada. Hertz a déjà supprimé 10 000 emplois en Amérique du Nord.
Et cette crise sanitaire et économique a aussi inspiré les humoristes américains.
2 jeunes femmes se sont fait connaître ces derniers jours sur les réseaux sociaux en imitant 2 des personnages principaux de cette crise, le président américain Donald Trump et le gouverneur de New York Andrew Cuomo. Inconnus jusqu'ici, Sarah Cooper et Maria de Cotis sont en train de devenir 2 stars, notamment sur le réseau social TikTok. Grégory Phillips.
Sarah Cooper, humoriste de 35 ans, née en Jamaïque et habitant Brooklyn, à New York, a eu une idée à la fois simple et géniale. Il y a un mois, quand elle entend Donald Trump, lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche, s'interroger sur la possibilité de traiter les malades du Covid avec des rayons UV ou du détergent, elle isole la bande-son et rejoue la scène avec la voix du président. Ça dure 49 secondes, c'est hilarant, les plus grands du stand-up comme Jerry Seinfeld saluent la performance. Maria de Cotis fait la même chose, mais avec le gouverneur de New York, Andrew Cuomo. Ce jour-là, en conférence de presse, il surjoue le père de famille d'origine italienne et raconte comment, en période de confinement, il est bien obligé d'accepter les petits amis de ses 3 filles. Là aussi, l'humoriste utilise la voix du gouverneur, mais mime tous les personnages. Là aussi, c'est très réussi. La vidéo de la jeune comédienne a déjà été vue plus d'1 million de fois. Toutes les deux Sarah Cooper et Maria de Cotis ont déjà été repérées par les late shows des grands réseaux télévisés, avec déjà des propositions pour quand New York sera déconfiné. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
Et le 6-9 continue sur Inter avec Eric Delvaux.
Merci Laurence Thomas.